France Inter.
Ce soir, comme je vous le disais hier, un passé légendaire redevient brusquement d'actualité par la grâce du cinéma. Et on va explorer les étapes d'une scandaleuse métamorphose qui a vu un parfait inconnu devenir une rockstar comme on n'en avait jamais vu et n'en reverrait sans doute jamais.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps. With fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Forth, rip down all hate, I screamed. Lies that life is black and white, spoke for my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers, foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older than I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy to memorizing politics of ancient history. Unthought of though somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. A self-ordained professor's tongue, too serious to fool. Liberty is just equality in school. Equality, I spoke the word as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. At the mongrel dogs who teach, fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older than I'm younger than that now.
Ah, j'étais tellement plus vieux en ce temps-là, je suis plus jeune que ça aujourd'hui. My Back Pages, mes pages passées ou refermées, une des premières chansons de Bob Dylan à avoir totalement déconcerté son premier public, celui qui voulait voir en lui le maître de la chanson engagée, un John Baez au masculin. Une de ses premières chansons où, comme il n'y avait rien de vraiment clair à comprendre, tout le monde a compris ce qu'il ou elle voulait, rien du tout, ou bien le sens de la vie. My Back Pages figure dans le 4e album de Bob Dylan qui est paru en août 1964, prudemment intitulé Another Side of Bob Dylan, une autre facette de Bob Dylan, histoire d'annoncer la couleur. Alors vous êtes forcément au courant, le film Un parfait inconnu qui sort aujourd'hui raconte la façon dont Dylan s'est métamorphosé par quelles étapes est passé celui qu'une vaste communauté de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, admirateurs, percevait comme le maître de la chanson contestataire, une sorte de beatnik un peu pouilleux, armé d'une guitare folk et qui est devenu soudain une rockstar flamboyante. Ce qui a été pour certains une fascinante révélation, mais à l'inverse, pour d'autres, la manifestation d'un méprisable opportunisme. Comme je vous le disais dans le Very Good Trip hier soir sur France Inter, le comédien Timothée Chalamet incarne dans ce film avec une vérité troublante, dans son corps, dans sa gestuelle, dans sa voix, une sorte d'essence théâtrale de Bob Dylan, au point que c'en est vraiment troublant. Le film est d'ailleurs très juste, très humain, soulignant l'importance centrale de deux femmes dans son parcours, sa fiancée Suze Rotolo, une jeune artiste peintre issue d'un milieu cultivé, et Joan Baez, qui a rendu Bobby, comme elle l'appelait, célèbre. Le réalisateur James Mangold, donc, et l'on devait déjà le très bon film Walk the Line, consacré à la vie de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, a recréé avec beaucoup de justesse l'ambiance fervente des récitals de l'époque du début des années 60, qu'ils aient lieu dans d'humbles caves aménagées ou bien en plein air lors de kermesses austères. Alors je le dis brièvement parce que tout le monde ne le sait pas forcément, il se trouve que j'ai consacré en été 2021 une série de 9 émissions au parcours de Bob Dylan, et je vous le dis avec franchise, comme il est difficile de réinventer la roue à chaque fois, bien j'ai pas mal puisé dans cette matière pour alimenter l'émission de ce soir et celle de demain également. Bref, je reviens à l'année 64 et à la sortie de l'album Another Side of Bob Dylan. Dylan explique alors qu'il ne croit plus, qu'il ne croit même pas une seconde à la possibilité que peut avoir un couplet de changer la société, ce qui va à l'encontre du credo de la communauté qu'il a élue de certaine façon pour être représentée lors de ces grands rassemblements politiques contre la ségrégation raciale dans lesquels tout le monde chante. Il n'y a pas de chanson à message dans ce disque, explique alors Bob Dylan à l'envoyé du magazine The New Yorker. Je ne veux plus écrire de chansons pour le peuple, je ne veux plus être un porte-parole, je veux retrouver la spontanéité, écrire comme on marche ou comme on parle, sans y penser. L'album connaît un immense succès et ce nouveau, entre guillemets, Dylan a beau déclencher les foudres des puristes, un jeune public se reconnaît dans ses doutes et dans ses interrogations. Il faut dire que en un peu plus de 3 ans, depuis son arrivée à New York, Bob Dylan, qui vient d'avoir 23 ans, a fait un chemin impressionnant qu'il a une première fois métamorphosé. Il semble très loin, oui, le temps de ses 19 ans où il nourrissait une obsession pour la figure de Woody Guthrie, l'ancêtre des protest singers américains, à la voix des laissés pour compte de la Grande Dépression des années 1930. Oui, il est très loin, ce temps où il avait quitté Minneapolis pour se rendre au chevet de Woody Guthrie, alors paralysé par la maladie, dans un hôpital de New Jersey. Dylan avait su attirer la sympathie et même l'intérêt du vieux maître qui avait vu en lui, je cite, un vrai chanteur folk. C'est de cette façon que Dylan s'était intégré au milieu du folk new-yorkais, parrainé par Pete Seeger. Il y avait également d'autres figures comme Ramblin' Jack Elliott, Dave Van Ronk, Rick Van Schmidt, enfin, je peux pas tous les citer. Mais déjà là, en 64, il tourne le dos à ce milieu et il s'élance vers un nouvel horizon. En novembre de l'année précédente, 63, son comportement avait suscité une sorte d'alarme. Après un concert triomphal au Carnegie Hall de New York, Dylan a reçu publiquement une récompense du comité d'urgence pour les droits civiques. Choqué par l'assassinat du président Kennedy, qui venait de se produire, Dylan a bafouillé lors de la cérémonie qu'il ne croyait pas en la politique et que, sans pour autant approuver Lee Oswald, l'assassin du président, il comprenait ce que celui-ci avait pu ressentir. Alors là, évidemment, Dylan a poussé le bouchon très très loin, il a dû même partir sous les huées du public. Et puis, il faut quand même dire l'essentiel, c'est qu'il vit de nouvelles expériences, qui sont d'ailleurs pas tout à fait précisément racontées dans le film de James Mangold. Il y a un peu l'impasse est faite sur les drogues, on le comprend de manière sous-jacente. À l'occasion d'une série de concerts qu'il a donné à travers les États-Unis, Dylan, entouré d'une bande de beatniks qui l'accompagne partout, vit en somme une nouvelle réalité, mais même une surréalité, puisque lui et ses potes se promènent alors de ville en ville, d'état en état, dans un station wagon Ford, une sorte de break familial si vous voulez. C'est un périple qui les mène de New York à San Francisco via la Louisiane, un périple long de 6 semaines et riche en expériences très bizarres. Dylan a rempli le véhicule de fripes qu'il veut distribuer aux mineurs en grève dans l'état du Kentucky. Et puis il décide de partir à la rencontre de ceux qu'il appelle les vrais gens, enfin c'est un projet assez fumeux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en chemin, il a la machine à écrire posée sur ses genoux et qu'il n'arrête pas d'écrire un peu à la manière de Jack Kerouac. Une importante quantité de haschich est prévue pour le voyage et l'un de ses compagnons de route avale régulièrement des amphétamines, on peut imaginer qu'il en a distribué. Et puis à chaque étape, les attend une enveloppe de marijuana qui se sont expédiés de New York. Alors, Dylan est souvent dans un état pas très net, un peu second, et il communique avec ses compagnons par paraboles obscures. Il écrit alors ses premiers textes fortement imagés, inspirés par Rimbaud, que Sousse Rotolo, l'intellectuel, lui a fait découvrir, comme Chimes of Freedom. Je cite, à travers le martèlement fou et mystique de la grêle qui crépite sauvagement, le ciel a fait claquer ses poèmes en un miracle nu. Alors évidemment, on est très loin du militantisme politique. Et puis après ça, il écrit cette chanson qui est comme une lettre de rupture à John Baez qui s'appelle « It ain't me, babe ». C'est pas moi, chérie. Si tu cherches un gars pour te relever à chaque fois que tu tombes, pour constamment te couvrir de fleurs et venir, dès que tu l'appelles, un amoureux pour la vie et rien de plus, c'est pas moi. On peut aussi être libre d'y entendre un cri d'indépendance par rapport à ce milieu de la chanson folk qui attend des chansons de Bob Dylan qu'elle continue à éveiller politiquement les consciences. Hélas, c'est raté parce que non, c'est pas lui.
Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart. Someone who will die for you and more, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Sleepy and
And now there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Turned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song to me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song to me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's the shadow you're seeing that he's chasing. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
Hey, the drumming's got me mad. Yeah.
Ah oui, la batterie le rend fou et ça lui tape sur le cerveau. Une version tronquée et interrompue de Mr. Tambourine Man qu'on a pu découvrir dans un coffret paru il y a 10 ans. Alors, levons d'emblée un malentendu. Contrairement à une rumeur persistante, cette chanson de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, qui est sortie au début de l'année 65, une de ses plus connues, n'évoque pas un voyage, entre guillemets, dans lequel l'aurait entraîné telle drogue ou telle autre. Et l'homme au tambourin ne désigne pas métaphoriquement un dealer de drogue. Dylan raconte qu'il a simplement eu une vision en observant un de ses musiciens secouer un grand tambourin. En tout cas, il y a des images d'arrachement à la terre, de voyages mystiques, de bateaux qui tourbillonnent, de bottes qui attendent de s'élancer vers des territoires magiques et inconnus. Tout ça, clairement, vient d'Arthur Rimbaud, hein, que sa compagne Suze Rotolo, je vous le disais, lui a fait découvrir. Et puis aussi pas mal d'images qui viennent du monde du cirque, hein, qui revient souvent dans les visions de Dylan. Alors, il y en a encore d'autres qui ont vu là-dedans une sorte d'initiation mystique et l'homme au tambourin aurait été une sorte de gourou. Enfin, on peut en tout cas entendre là-dedans ce qu'on veut et Dylan, comme tous les poètes, c'est pas exactement au juste ce qu'il a, entre guillemets, voulu dire. Il a chanté une première fois cette chanson fin 1964 sur la scène du Philharmonic Hall de New York et la chanson a aussi été à la source pour Dylan d'une autre révélation, quant à elle, purement musicale. En effet, un groupe de Los Angeles bien connu, hein, les Byrds, a repris cette chanson à la façon des Beatles qui venait de débarquer aux États-Unis et les Byrds ont fait de Mr. Tambourine Man un numéro 1. Alors Dylan a d'ailleurs assisté à cet enregistrement et selon le souvenir de David Crosby, qui faisait donc alors partie des Byrds, c'est comme si Dylan avait eu un déclic dans sa tête. Bob Dylan a su qu'il allait désormais jouer du rock et du rhythm and blues, enfin rejouer, parce qu'en ses très jeunes années à Minneapolis, c'est ce qu'il avait déjà fait. Un album a été publié au début de l'année 65, intitulé « Bringing It All Back Home ». Il a marqué la première étape de la métamorphose de Bob Dylan. Il était divisé en deux faces, la première électrique et la seconde acoustique à l'ancienne, hein, juste guitare folk, harmonica et voix. Alors la première face, ça a été un sacré choc pour de nombreux admirateurs de Bob Dylan, puisqu'elle démarrait par le déconcertant Subterranean Homesick Blues, le blues de la nostalgie souterraine, on pourrait dire. Une sorte de rock'n'roll débité à la mitraillette, aux paroles apparemment sans queue ni tête, un chapelet de mots claquant comme des onomatopées, un peu comme une comptine de cours de récré, mais pour adultes. Alors les passionnés et autres fanatiques de Dylan, il commençait à y en avoir beaucoup, il y en a eu très tôt, se sont évidemment empressés d'y chercher, et même d'y trouver bien sûr, un ou des sans se cacher. Get sick, get well, hang around and inkwell, hein, tombe malade, rétablis-toi, va faire les 100 pas autour d'un puits plein d'encre, mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Eh bien, rien de précis justement, juste le plaisir de faire s'entrechoquer des syllabes et des images absurdes comme dans un dessin animé. On pouvait évidemment entendre et voir ce qu'on voulait. De ce point de vue, Subterranean Homesick Blues, je ne suis pas le premier à l'avoir souligné, a été un rap avant l'heure. Dans la forme, c'était un rhythm and blues à la manière des Anglais, des Animals ou des Rolling Stones. D'où justement d'ailleurs le titre de l'album de Dylan, soit Bring It All Back Home, c'est-à-dire on récupère tout ça chez nous. Tout ça, eh bien, ça désignait le blues électrique, le rock and roll, rhythm and blues, la country, à savoir toute la musique qu'avaient inventée les minorités américaines, noires et blanches, une musique que les jeunes groupes britanniques s'étaient appropriés à leur façon et que les musiciens américains, Dylan en tête, entendaient réinvestir parce que, en fait, c'était à eux, j'allais dire, c'était leur cam.
Mixing up the medicine, I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Thank you.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Listen to me, baby. There's something you must see. I wanna be with you, girl. If you wanna be with me, buddy, you gotta go. It's alright. Time it is, so if you gotta go, it's all right. But if you gotta go, go now, or else you gotta stay all night. Find a door, so if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night.
Quelque part entre rock'n'roll, blues et country, une chanson signée par Bob Dylan en 1965, If you gotta go, go now, or else you gotta stay all night, si tu dois partir, va-t'en, sinon tu dois rester la nuit. Une chanson longtemps restée inédite, elle devait figurer à l'origine dans l'album Bring It All Back Home, mais pour des raisons oubliées, on l'a écartée. Et j'ai appris que, bizarrement, on l'avait diffusée aux Pays-Bas en 1967, sous forme de 45 tours, single si vous préférez, sans rencontrer beaucoup d'écho. En tout cas, la chanson a néanmoins circulé et le groupe anglais Manfred Mann en a fait un tube. Dans une version entraînante, joyeuse, hein, qui collait bien à la chanson plutôt légère, une chanson d'ailleurs qu'aurait pu signer à peu de choses près les Beatles, même plutôt d'ailleurs John Lennon. Les Beatles qu'admiraient évidemment beaucoup Bob Dylan, et quant au groupe Manfred Mann, eh bien Dylan appréciait particulièrement ses reprises de ses chansons plus que celle des Birds, paraît-il, notamment celle de Just Like a Woman. Et je me rappelle aussi, en 1968, enfin j'étais petit mais j'ai des souvenirs, la chanson de The Mighty Quinn, alias Quinn the Eskimo, une chanson que Bob Dylan avait composée mais pas encore interprétée lui-même, en tout cas on découvrirait l'enregistrement plus tard, et ça sonnait vraiment comme une comptine pour enfants, une chanson de dessin animé avec le personnage de Quinn l'Eskimo, et quand va arriver Quinn l'Eskimo, tout le monde va sauter de joie, voilà, ça me plaisait beaucoup. Alors je vous parle de dessin animé, ça correspond assez bien à la chanson qu'on a écoutée juste avant et qui s'appelle On the Road Again, hein, rien à voir avec la chanson homonyme du groupe Can't Hit, ni d'ailleurs avec celle de Bernard Lavillier, une chanson qui figurait dans l'album Bringing It All Back Home, hein, sur la face dite électrique, et qu'on a entendue sous une version à peine différente, hein, c'est juste une autre prise qu'on a découverte dans le coffret paru en 2015 qui s'appelle The Cutting Edge, hein, on pourrait dire Dylan à la pointe, consacré aux années 65 et 66, période tellement riche, riche de transformations bien sûr. Eh bien, On the Road Again, c'est vraiment une sorte de blues parodique, hein, version dessin animé. Alors, je cite, « Je me suis réveillé ce matin avec des grenouilles dans les chaussettes. Ta maman, elle est cachée dans la glacière. Ton papa, il se balade avec un masque de Napoléon. Et après, tu me demandes pourquoi j'habite pas là ?» Eh ben, ma chérie, la question se pose pas. Il y a aussi dans cette histoire un singe apprivoisé, un laitier qui porte un chapeau melon, un trou à la place de l'estomac, la canne du grand-père qui se transforme en épée, et puis on se bat à poing nu, hein, dans la cuisine. Alors imaginez qu'à l'époque, les admirateurs de Dylan, et il y en avait beaucoup, se prenaient la tête entre les mains et essayaient de comprendre ce qu'il avait bien pu vouloir dire. Ils se cassaient évidemment les dents, et ça amusait beaucoup John Lennon, lui aussi un grand amateur d'humour loufoque, qui avait écrit « I am the walrus » dans ce style, écrivant absolument n'importe quoi, tout ce qui lui passait par la tête exprès, pour que les obsédés des chansons des Beatles, il y en avait beaucoup aussi, se torturent bien les méninges, évidemment en vain. Alors je vous parlais de la métamorphose de Bob Dylan, scandaleuse pour certains, géniale pour d'autres. En voici le témoignage sonore capté au festival folk de Newport, dans l'état de Rhode Island, en juillet 1965. Je vous en dirai deux mots après.
Yeah.
Maggie's Farm, Bob Dylan, dans une version extrêmement brutale, façon blues électrique de Chicago, j'allais presque dire une version punk, enfin bon, faut pas exagérer, mais enfin, ça a produit cet effet-là en juillet 65, ça a l'air de rien, mais ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment un document historique, Bob Dylan donc, sur la scène du festival de Newport en juillet 1965. Il est, vous l'avez entendu, accompagné par un groupe de blues électrique, et le guitariste qui prend un solo est un des plus doués de sa génération, il s'appelle Michael Bloomfield, et certains des organisateurs du festival, comme le grand musicologue Alan Lomax, sont extrêmement sceptiques. Alan Lomax, c'est un homme qui a sillonné dans les années 30 les États du Sud avec son père, John Lomax, y branchant un magnétophone à enregistreur archaïque sur la batterie de sa voiture pour enregistrer justement des chanteurs aux sources du blues. C'est ainsi que Alan et John Lomax ont trouvé Udy Ledbetter, dit Led Belly, dont je vous parlais dans un pénitencier du Texas. Alors pour les puristes comme Alan Lomax, que des gamins blancs qui ont mangé à leur faim, qui ont dormi dans des draps propres, jouent et chantent ce type de blues, ce n'est guère crédible et à la limite, c'est de mauvais goût. Alors quand Lomax et le père fondateur du folk américain, Pete Seeger, je vous en ai longuement parlé dans l'émission d'hier, voient débarquer sur scène Bob Dylan vêtu à la dernière mode londonienne, veste de cuir, chemise à pois et boots pointus à la Beatles, lunettes noires, une guitare électrique en bandoulière, eh bien, leur sang ne fait qu'un tour, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire la grimace. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Dylan a réuni un groupe de rock, Rhythm and Blues, pour l'accompagner en studio pour ses nouvelles chansons, comprenant donc Mike Bloomfield à la guitare. Il y a la rythmique du groupe de Paul Butterfield, c'est un musicien blanc de Chicago, et il y a l'organiste Al Cooper. Ils ont eu le temps de répéter seulement pour cette prestation au festival de Newport, seulement trois chansons, dont Maggie's Farm, l'adaptation d'un blues qu'il avait déjà enregistré et que Dylan rend totalement méconnaissable, une pratique dont il restera coutumier. Enfin là, la particularité, c'est qu'il joue très très fort et Pete Seeger doit se boucher les oreilles et il dit même, Seeger, à son entourage, qu'il rêverait d'avoir une hache pour sectionner le câble qui alimente la sono. Alors il y a deux versions qui existent à propos de cet événement. Selon la première version, Bob Dylan aurait été hué par son public pur et dur, qui aurait donc crié sa rage d'être trahi et l'aurait contraint à quitter la scène en larmes. Une seconde version, peut-être plus nuancée, en tout cas plus fidèle peut-être, établit que le groupe mal sonorisé couvrait totalement la voix de Bob Dylan dans ce Maggie's Farm, qui a été inaudible pour beaucoup, et que le public assis sur les bancs des invités se serait alors manifesté bruyamment pour expliquer la situation à Bob Dylan. Celui-ci n'aurait pas compris et il aurait quitté la scène paniqué, faisant ainsi redoubler les hurlements et les protestations mêlées. Mais enfin, la scission est faite. Nombre de ses premiers admirateurs accusent désormais Bob Dylan d'être un sale traître. Un traître à la cause du peuple et de la chanson folk, d'être devenu une pop star vaniteuse vendue à l'argent. La scène est montrée dans le film de James Mangold et au fond, il ne tranche pas. On voit certains protester, partir dans un rire de dérision, d'autres applaudir. C'est une polémique évidemment qui va courir très longtemps. Voici autre chose de bien plus classique qui figure pourtant dans l'album Highway 61 Revisited. Un boogie tranquille, un peu triste, scandé par le piano bastringue d'un musicien noir de Harlem, Paul Griffin, qui avait fait partie du groupe de tournée du grand saxophoniste King Curtis. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Il en faut beaucoup pour nous faire rire, mais il suffit d'un rien, en l'occurrence d'un train, pour nous faire pleurer, dit la chanson. Alors c'est un pur blues, les paroles ont d'ailleurs quelque chose d'archaïque et de très simple, étonnamment, et là c'est pas du tout le délire dessin animé, c'est du noir et blanc ou du sépia. Un homme seul dans un train à vapeur roule vers son destin, le soleil se couche, l'heure arrive, il est jeune, il pense à une femme qu'il aime ou qu'il a aimée, et son destin, on l'imagine, sera tragique.
Vertigo Trip sur France Inter.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where do you want this killing done? God said, hold on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and a thousand telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61.
Une des chansons les plus connues de Bob Dylan, c'est elle qui a donné son titre à l'album Highway 61 Revisited, un album qui est paru à la fin de l'été 1965, 6 mois seulement après Bring It All Back Home. Ça allait très très vite en ce temps-là. Sur la pochette du disque, Bob Dylan ressemble plus à James Dean qu'à Woody Guthrie. Highway 61 Revisited, ça signifie la Grand Route 61 revue et corrigée. Enfin, là, la Route 61 de la chanson est le théâtre d'une sorte de BD. Ça commence par un épisode bien connu de la Genèse, version comic book. Alors je traduis mot à mot le début de la chanson. Dieu a dit à Abraham, tue-moi un fils. Abe a dit, hey mec, tu me fais marcher. Dieu a dit non. Abe a dit, quoi? Alors Dieu a dit, écoute Abe, tu fais comme tu veux, mais la prochaine fois que je me pointe, t'auras intérêt à courir. Alors bon, Abe dit, et où est-ce qu'il faut que je le tue? Dieu dit sur la route 61. Alors dans la chanson, il y a aussi le joueur vagabond qui, parce qu'il s'ennuie un peu trop, envisage de démarrer la Troisième Guerre mondiale. Facile, lui dit un entrepreneur de spectacle, je vais installer des gradins sur la route 61. Et voilà, c'est comme ça qu'on finit par avoir le prix Nobel de littérature. Voici maintenant une des chansons les plus puissantes de Bob Dylan, Ballad of a Thin Man. On pourrait dire Ballad d'un homme inconsistant. Certainement une des chansons les plus impressionnantes à figurer dans l'album Highway 61 Revisited. Son célèbre refrain, Because something is happening here and you don't know what it is, do you, Mr. Jones, est resté proverbial, hein, presque aussi célèbre que le How does it feel de Like a Rolling Stone, hein, qu'on écoutera demain. Hein, ça dit, parce que vous savez qu'il se passe quelque chose ici, mais vous ne savez pas quoi au juste, n'est-ce pas, Mr. Jones? C'est la réponse narquoise que Dylan fait alors à tous ces journalistes cultivés et bien intentionnés des années 60, voilà, qu'il interviewe en costume cravate, il a rencontré un paquet, et qui voulait absolument comprendre le sens de ce qu'il écrivait et chantait, ce qu'il, entre guillemets, voulait dire par là. La réponse exacte, bien sûr, c'est que Dylan était un poète et qu'il n'avait pas lui-même la moindre idée de ce que signifiaient la plupart des images qui lui passaient par la tête. Elles jaillissaient et bondissaient dans sa tête et il les dégoupillait comme des grenades. Alors bien sûr, tous les Mr. Jones de la Terre se grattaient la tête et se demandaient « Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Quel est au juste son message ?» Dylan lance ainsi des flèches empoisonnées contre ce pauvre Mr. Jones, un homme instruit qui a lu les livres de Fitzgerald. Il envoie contre lui alors toute la bande délirante qui tourne dans sa tête, sortie du cirque de son enfance, l'avaleur de sabre, le nain borgne qui lui crie dans l'oreille et lui dit « Vous êtes une vache, alors donnez-moi du lait immédiatement. » Ça me rappelle un documentaire passionnant consacré au peintre Jean-Michel Basquiat qui était interviewé par un critique d'art. C'est une scène de comique involontaire où le critique en question lui demande « Alors là, vous avez tracé un cadre autour d'une inscription. » « Ben oui, j'ai fait ça, » répond Basquiat. Et l'autre insiste « Oui, mais pourquoi ?» Et Basquiat répond « Ben écoutez, j'en sais rien, c'est ce que j'ai fait. » Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Mr. Jones qui se présentent comme artistes et qui expliquent tout ce qu'ils font par de grandes phrases avec de grands mots. Et comme le disait le très grand musicien, hélas disparu, le trompettiste John Hassell, les mots ont pris le pas sur les sentiments, les définitions dressent des barrières, imposent des codes et des uniformes. Je suis sûr que Bob Dylan serait d'accord.
Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Facts when someone attacks your imagination, but nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations.
Ballad of a Thin Man, un des sommets de Bob Dylan en 1965, l'année charnière qu'il a vu se métamorphoser définitivement de chanteur engagé en faveur de causes politiques en poète illuminé et un brin irresponsable. Pour le désespoir de certains et la joie d'autres. Une année sur laquelle se clôt le film de James Mangold, Un parfait inconnu, et c'est une histoire que je continuerai à vous raconter dans l'émission de demain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je remercie Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission. C'était Nicolas Delmas à la technique. Merci également à Guillaume Cohener, comme à François Merlin à la discothèque de Radio France.